ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Cheers 94.3. Au Griendel, on t'offre un super quiz Cheers spécial chanson de Noël. Oh, attends, il me semble que j'ai fait drette ça l'an passé. OK. Fuck ça, j'ai une meilleure idée. Le 22 décembre, Cheers t'invite à un super quiz Cheers de fin d'année. Comme le bye-bye, mais pas de sketch, pas de faux maquillage, ni de controverses, juste de la musique et des événements musicaux parus dans les 12 derniers mois. Ben, venez chanter ça avec nous le dimanche 22 décembre prochain à 19h30 au Griendel. On s'y voit pour le dernier super quiz Cheers de l'année 2019.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Question de savoir, l'émission hebdomadaire de l'Allier, l'association des étudiants et étudiantes inscrits au cycle supérieur à l'Université Laval. Mon nom est Jérôme Lizotte, je suis attaché à l'exécutif pour l'Allier. Je suis accompagné de plusieurs belles personnes cette semaine, comme à chaque semaine en effet, sinon ça serait plate en maudit, moi qui jase tout seul. Mais je suis accompagné de Lydia Arsenault, VP aux droits étudiants à l'Allier. Salut Lydia.
Salut Jérôme, comment... merci. Toi aussi, t'es beau.
T'es fine. Comment ça va?
Ça va bien, oui. Mais comme une fin de session.
Ouais, ouais c'est ça, dans le gros rush habituel de fin de session.
Eh oui.
Ouais, voilà. Et j'ai le président de l'Allier en avant de moi, M. Nicolas Pouliot.
Je me sens aussi obligé de dire que t'es beau, Jérôme.
Qu'est-ce qui se passe? C'est un dîner de con? Toi, ça va bien, Nicolas?
Très, très bien.
Excellent. Et finalement, à ma droite, j'ai Marie-Ève Duchesne, VP. Et attachée aux communications. J'ai de la misère avec les noms de poste, là, c'est compliqué. Et attachée aux communications à l'Allier. Salut, Marie-Ève.
Salut, Jérôme.
Ça va bien, toi aussi?
Oui, ça va bien. Toi, moi, je suis pas en fin de session.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Nous, on est correct. Hein? C'est ça.
Mais on est attaché à l'Allier.
On est attaché à l'Allier pour toujours. Et cette semaine, à l'émission, on fait justement fin de session, ce qui veut dire fin d'année 2019. Et ce qu'on va faire, on va faire une petite revue de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Allier en 2019? Pas grand-chose, honnêtement. L'émission va durer 15 minutes.
Ouais, ça a été une année soft.
C'est tranquillou, comme on dit. Et c'est ça, donc une petite revue de l'année avec des thématiques de qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le laissez-passer universitaire est en place depuis cet automne.
Une petite initiative dont j'ai entendu parler récemment.
Exact. Donc, 2019, ça a été une grosse année pour ça et pour le développement durable en termes plus larges aussi. Comment ça s'est passé, l'implantation du LPU? Est-ce que ça se passe bien?
Là, faut que je parle comme un has-been, là, c'est ça?
Exactement, je te regarde.
Mais tu sais, c'est ça, le référendum sur le PU s'est fait en 2018, à l'automne 2018. Donc, c'est sûr qu'en 2019, ce qui s'est produit au niveau du LPU, c'est plus des rencontres des différents comités. Il y avait plusieurs comités qui ont réfléchi à comment implanter le LPU à l'université. Fait qu'il y avait le comité de gestion qui regroupait les différents partenaires qui chapeautaient tout ça, mais il y avait des comités qui sont, je pense, sur la distribution des LPU, sur la gestion des plaintes du LPU... sur la production aussi des cartes. Donc, tous ces comités-là ont réfléchi sur la question pour en arriver au moment décisif, c'est-à-dire cet automne où le LPU a été distribué pour la première fois. On le répète souvent, mais ça s'est très bien déroulé. La grande, grande majorité des gens qui pouvaient se prévaloir du LPU s'en sont prévalus. Donc, on parle de environ 25 000 étudiants sur un potentiel de 27 000.
C'est énorme.
On parle aussi beaucoup du nombre de passes de stationnement qui ont diminué depuis l'implantation du LPU cet automne, une diminution de 20% de nombre de passes vendues.
Wow.
Donc, LPU, puis... Ce que je demande, là, pour pas tousser, mais LPU aussi, il faut comprendre que c'est un projet qui remonte à longtemps quand même. Là. On a beaucoup parlé du référendum de l'année passée, de son implantation cette année, mais... Plusieurs de nos prédécesseurs ont travaillé sur le dossier. C'est vraiment un enjeu qui était difficile à ficeler avec les différents partenaires pour des raisons politiques aussi. Ça a pris du temps avant d'être concrétisé. Donc, quand l'entente est survenue et qu'on pouvait aller de l'avant, on était très heureux.
C'est une entente qui veut pas demander aussi beaucoup de communication parce qu'il fallait aussi parler à la communauté étudiante de ce que ça allait avoir comme impact sur justement leur facture étudiante. Puis aussi sur, en général, qu'est-ce que c'est le LPU, pourquoi on le veut autant.
Ouais, exact. C'était vraiment un travail de communication en amont et après l'implantation aussi de, écoutez, si vous votez oui, il va avoir ça sur votre facture, et après que ça a été voté, ben il va avoir ça sur votre facture, de constamment le répéter pour que ça soit clair, puis que c'est un gain quand même, là, parce qu'à base, c'était 58-60 $ environ une passe pour les étudiants. Puis là, on tombe à 33 par mois. Donc, c'est vraiment une économie substantielle.
Oui, pour... Ouais.
Puis c'est vraiment une belle réussite aussi. En tout cas, moi, bon, ça fait longtemps que je traîne sur les bancs de l'Université Laval. Je ne dévoilerai pas depuis quelle année, mais ça précédait l'implantation du LPU. Puis en tant que parent étudiante, j'aurais énormément aimé avoir ça pendant mon bac, une passe aussi peu chérante, qui donne accès aussi du côté nord et du côté sud au réseau de transport en commun.
C'est vrai, ça, on l'oublie, mais c'est RTC, ST Lévis, et donc ça comprend même le traversier, là, pour ceux qui voudraient faire des trips de bateau.
Aller de l'autre bord du fleuve.
C'est un peu dangereux, par exemple, les traversiers, hein, par les temps qui courent.
On n'est pas sur la côte nord, c'est correct.
Ou à m'attendre.
Oui, c'est ça. Donc, justement, le LPU, gros projet qui touche le développement durable et la mobilité durable, mais c'est passé plein d'autres choses aussi. On a vu la montée de La planète s'invite à l'université. Il y a eu un chapitre Université Laval avec deux jours de grève dont l'Allier a participé le 15 mars et le 27 septembre. Ça, c'était vraiment, vraiment trippant là, de participer à ça, honnêtement. À Montréal, le 27 septembre, c'est la plus grosse manif de l'histoire du Québec. Et à Québec, je me souviens plus, 10 000, je crois, à Québec.
Au
mois de septembre?
C'était
pas 20 000?
Peut-être 20 000. En tout cas, c'était quand même très, 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 très impressionnant. Là, vraiment cool de participer à ça. Puis... vas-y, Nicole.
Non, je vais juste dire qu'en fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de voir c'est des initiatives qui partent vraiment de la base. Là. C'est immanent même au monde étudiant. Puis c'est le fun de voir comment... T'sais, le monde étudiant, c'est un monde qui s'adapte rapidement, qui propose des initiatives très rapidement aussi. Les gens n'ont pas toujours besoin d'une structure au-dessus d'eux pour les guider. Des fois, juste par des actions coordonnées moindrement, finissent par créer de quoi d'intéressant. Puis le PSU en est vraiment un bon exemple. Comme tu dis, il y a un chapitre universitaire qui a été créé, qui est très actif. Puis au mois de mars dernier, ça avait été la première manif qui avait été organisée. Puis comme avec, on va en parler tantôt, mais il y a eu toute la question aussi de façon plus générale, le développement durable à l'Université Laval. Ça a vraiment été un printemps où la question de l'environnement a été prépondérante. Là. Cet automne aussi.
Nicolas n'était plus VP interne, il était VP développement durable.
Oui, c'est ça.
L'année passée.
Le géant vert.
Ce qui avait vraiment beau aussi avec la marche du 27 septembre, c'est tout le rayonnement, dans le fond, qu'on a été capable d'aller chercher grâce à LPSU. Parce qu'il n'y avait pas seulement des étudiants à cette marche-là. Il y avait des personnes qui faisaient partie de générations qui nous ont précédés. Il y avait des services de garde qui se sont présentés, des écoles secondaires, primaires.
Les écoles primaires même.
Oui. Donc, puis il y avait une belle diversité aussi sexuelle et de genre. Les communautés autochtones se sont présentées également à la marche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rejoint tout le monde.
Et surtout que c'était en pleine campagne fédérale. Et moi, je me souviens, cette semaine-là, on a parlé que d'environnement cette semaine-là. Ce qui est dommage par la suite, c'est que la thématique s'est un peu éteinte. Là. Mais quand même, pendant une semaine en campagne fédérale, c'était l'enjeu. Et tous les partis politiques vraiment présentaient leur plateforme en environnement à ce moment-là. Grosse avancée aussi à l'Université Laval qu'on a un peu oublié.
Les bouteilles d'eau.
Les bouteilles d'eau, exactement. À l'Allier, on avait commencé une campagne qui s'appelait déjà Durable, puisque depuis 2010, Univers Laval s'est positionné et fait campagne pour l'abolition des bouteilles d'eau sur le campus de l'Université Laval. On a décidé de peu rejoindre cette cause-là et de faire une campagne sur les réseaux sociaux. Et badoum badam, qu'est-ce qui est arrivé? Une annonce de l'Université Laval que dès cet automne, en fait, ce septembre-ci, plus de bouteilles d'eau à l'Université Laval. Donc ça, c'est quand même énorme. Il y avait beaucoup de campus universitaires qui l'avaient fait. McGill, Concordia, UDM, selon ce que je me souviens. Donc, une autre grosse victoire.
On parle vraiment des bouteilles, plus de vente de bouteilles d'eau non réutilisables.
Oui, c'est encore, ça, exactement.
Les gens peuvent en amener s'ils veulent, mais mettons qu'ils peuvent plus en acheter sur le campus. Là. Puis par rapport à ça, c'est ça, l'Université Laval, depuis déjà, honnêtement, il y avait déjà envoyé des pétitions, je ne sais plus combien d'années travaillent là-dessus. Tu sais, l'Université Laval, c'est comme un regroupement de plein d'initiatives, puis il y avait l'initiative sur à Laval, buvons local.
Oui, c'est 2007, je pense.
Oui, ça, c'est pas loin de ça.
Ça remonte à loin.
Oui, puis ils défendaient ça, donc nous autres, on les a aidés là-dedans, puis avec la campagne sur les réseaux sociaux. a permis d'ajouter à tout le reste du mouvement universitaire qui demandait l'abolition totale. Ouais. Puis ça a pris l'université, finalement, a fini par écouter.
Oui, ça a vraiment bien fait, cette campagne-là, parce que les gens... On demandait aux gens de se prendre la photo avec leur bouteille d'eau réutilisable. Et les gens l'ont fait quand même à des... assez bon nombre. Puis une semaine après ça, c'est Sodexo qui avait annoncé qu'ils annonçaient eux-mêmes l'abolition des bouteilles d'eau non réutilisables. Et une semaine après, l'université, donc tu sais, tout a déboulé vraiment en même temps, donc c'était très cool. Mm. Et en parallèle à ça aussi, justement, on parle d'Univers Laval, LPSU, il y a beaucoup d'associations parascolaires spécialisées environnement, développement durable à l'Université Laval, mais il y en a une nouvelle qui a été créée, qui est vraiment plus, comment on pourrait dire ça, parapluie. Mm-hmm. Si on veut, qui est, voyons, je ne sais pas le nom. L'Alliance étudiante en développement durable de l'Université Laval. Merci de me corriger. Et c'est ça. En fait, simplement, expliquer c'est quoi, à quoi ça consiste vaguement. On a déjà invité Anne Bernard ici pour nous l'expliquer, mais on pourrait le réexpliquer rapidement.
Oui, mais c'est ça, grâce au travail notamment d'Anne Bernard qui a beaucoup travaillé à la mise en place de ça. L'Alliance, au fond, c'est une association qui se voulait regrouper différentes associations parascolaires et étudiantes aussi, autour de l'enjeu du développement durable. C'est un peu comme une table de concertation. Là. Il y a plusieurs façons de le décrire, mais c'est comme une table regroupant plusieurs représentants qui permettrait au fond, parce que le gros problème, parfois en développement durable, il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées rapidement, mais il n'y a pas nécessairement de coordination entre ces différentes initiatives-là. Fait que des fois, il y en a qui font la même chose que d'autres. Fait que l'idée de l'Alliance, c'était un peu de coordonner tout ça. Puis d'ailleurs, là, maintenant, ils tiennent des activités de formation puis des rencontres. Ça, c'est bien parti.
Il y a aussi un comité qui a été créé par après pour le développement durable à l'Université Laval, comme pour justement mettre plus l'emphase sur le développement durable par après.
Oui, puis c'est ça. L'objectif de l'Alliance, c'est vraiment... le message, c'est vraiment clair. C'est peu importe vous venez de quel asso parascolaire, asso facultaire, asso de campus, le DD, l'environnement vous intéresse, venez à l'Alliance, puis on va se coordonner, on va faire des formations. Puis c'est vraiment... Ça a l'air de bien fonctionner, là, quand même. Ouais. Donc, ça ferait... Ah oui, à l'Allier aussi, dernière petite connotation DD. À l'Allier, on a procédé à la création d'un plan d'action triennal en développement durable qui a été adopté en février, je crois. Donc, nous aussi, on essaie de se... verdir, ça se dit-tu?
Oui,
enverdir.
Espèce d'enverdeur.
On devient des enverdeurs tranquillement, pas vite. Puis c'est bien correct. Donc, nous aussi, on s'est doté d'un plan d'action. On a un comité en développement durable qui fait le suivi de ça de façon très rigoureuse. Autre enjeu, puis là, on sort de la thématique de l'environnement, du développement durable, mais autre enjeu qui a fait beaucoup jaser cet hiver, en 2019, le mouvement de grève pour la rémunération des stages. Ça, à l'Allier, nous, on a été quand même touché par ça. On a tenu un forum des associations au mois de janvier.
Ça fait début février, je crois.
En 88, non, pas. Mais ouais, on a de la misère à se rappeler. Mais on a tenu un forum des associations sur la question pour voir si ça affectait beaucoup d'étudiants. Et la réponse était quand même très... très forte. Donc, on a tenu une assemblée générale extraordinaire. On a pris position pour la rémunération de tous les stages et on soutenait également tout mouvement qui était pour l'amélioration des conditions des stagiaires. Donc, que ce soit la campagne de l'UEC et la FEC ou... Les cute. Désolé pour cette mauvaise blague. Donc, pour les cute également. Donc, gros mouvement de grève, ça a brassé quand même pas mal à la CADOL aussi.
Oui, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a certains stages qui vont être compensés sous forme de bourse, mais tu sais, il y a encore du chemin à faire au niveau du travail étudiant pour que tous et toutes soient bien rémunérés.
Exactement. On est vraiment loin de notre position à nous qui est pour une rémunération complète de tout travail étudiant. Les bourses qui sont offertes pour les stagiaires en ce moment, c'est surtout des bourses dans le public, en domaine... dans le domaine de la santé. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. C'est pas non plus encadré par la loi sur le travail.
Non, c'est ça. Puis nous autres, le but de la revendication qu'on défend, c'est aussi que les stagiaires soient reconnus comme des travailleurs, exact. Donc qu'ils bénéficient des mêmes protections que les travailleurs, des mêmes droits. Ce qui n'est pas le cas nécessairement lorsqu'ils sont simplement compensés financièrement.
Exact, parce que c'est comme une bourse, c'est pas une rémunération. Donc là, il y a toute la nuance. Et le ministre Jean Boulet semble travailler là-dessus. On avait promis un encadrement cet automne. C'est pas arrivé. Donc là, on l'attend l'hiver prochain. On espère que ça va débouler rapidement. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça pour la question de la rémunération des stages. Est-ce que ça va faire jouer une petite toune?
Oui. Oui, puis on va la dédier à une des employées de l'Allier.
Notre archiviste.
Oui, Emmanuel Germain.
Donc, on s'en va écouter Pitou de Les Louanges. À tantôt.
Quelque chose, je suis déjà à genoux.
C'est moi jamais de l'effet de enfants. C'est moi qui dis que j'ai qui prend la peur. C'est moi jamais de l'effet de enfants. C'est moi qui dis que j'ai qui prend la peur.
Bienvenue à Question de savoir, l'émission hebdomadaire de l'Allier à Chiz 94.3. Je suis toujours accompagné de mes acolytes Lydia, Nicolas et Marie-Ève. On continue notre petite revue de l'année 2019 de l'Allier et de l'actualité à l'Université Laval et à l'Allier.
Il s'en est passé vraiment des choses dans les derniers mois.
Oui, pas pire, correct. Justement, pour nous, on va continuer d'en parler. Il y a eu les dévoilements de résultats de l'enquête en santé psychologique de l'UEC.
Donc, il y a à peu près 3 semaines, il y a eu les résultats de l'enquête santé psychologique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une enquête qui a été demandée par l'Union étudiante du Québec qui a concerné 24 000 étudiants. Dont plusieurs de l'Université Laval qui ont répondu à cette enquête-là sur les mesures de santé psychologique. Ils ont trouvé en fait que 58 % des étudiants et étudiantes vivaient de la détresse psychologique. À l'Université Laval, il y a eu une conférence de presse qui a été faite conjointement avec la CADEL, l'Université Laval, avec le Centre d'aide aux étudiants et plusieurs personnes de la haute direction. Puis c'est ça, Nicolas était là pour présenter l'allié. C'est sûr et certain que c'est des résultats qui sont alarmants, puis qui démontrent qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la santé étudiante, puis je pense que c'est un enjeu qui selon le sondage annuel de l'allié, petit spoiler, c'est un des enjeux, qui est très important pour les membres.
Oui. On a même, plus spécifiquement pour les étudiants au cycle supérieur, dans l'enquête, on remarquait que 66%, que un des facteurs de risque les plus importants était le stress lié à la rédaction.
Oui. Donc, d'où ce qui nous amène à la demande du plan d'encadrement, qui est une de nos demandes obligatoire. Parce qu'aussi, on sait aussi supérieur qu'il y a des productions qu'on demande sont longues, sont demandantes, et ce qui amène beaucoup de stress parfois. Puis, parfois aussi, les étudiants sont simplement mal encadrés dans leurs recherches. Puis, donc, pour nous, le plan d'encadrement viendrait. Si on veut baliser un peu la recherche, mieux l'encadrer, là, ça le dit. Notamment en fixant dès le début le nombre de rencontres qu'aurait l'étudiant avec sa direction de recherche, le financement qu'il recevrait de la part de sa direction de recherche, les responsabilités que l'étudiant aurait, les responsabilités que sa direction aurait. Puis, tu sais, parfois, peut-être, on a l'impression que c'est peut-être un peu moins nécessaire dans les domaines de sciences humaines ou sciences sociales, alors que c'est pas le cas. Mais quand on pense, par exemple, aux domaines plus de sciences pures, on peut comprendre, là, des fois, comment ces responsabilités sont pas toujours claires. Tu sais, qu'est-ce que l'étudiant fait vraiment dans son laboratoire? Qu'est-ce qui est demandé? Mm-hmm. C'est pas toujours clair.
Ça permet aussi d'établir, en fait, la charge de travail des deux personnes, tant du côté de l'étudiant que du côté de la direction de recherche. Mm-hmm. Puis de nommer les limites, dans le fond, puis les besoins qu'on a de chacun de notre côté. Donc, ça permet, dans le fond, d'agir sur des petits problèmes dès le début de la relation de collaboration en recherche. Puis, lorsqu'on n'a pas un tel outil, dans le fond, comme le plan d'encadrement, bien, ce qu'on remarque, en fait, c'est que souvent, ces petits problèmes-là vont générer des malaises qui sont beaucoup plus grands, qui sont tolérés longtemps, puis qu'à un moment donné, bien, il y a une espèce de point de non-retour qui s'installe. Puis là, bien, c'est difficile d'agir sur la situation interpersonnelle entre les deux. Puis ça, bien, c'est quelque chose qui est reconnu également par le CPIMH et par l'Ombudsman.
Puis aussi, ce qui est intéressant avec le plan d'encadrement, c'est que ça permet aussi de rendre le climat plus favorable au travail des deux parties. Donc, que ce soit la direction de recherche, mais aussi pour l'étudiant. Donc, pour nous, pour l'allié, c'est vraiment un plan d'encadrement, c'est obligatoire. C'est pour ça, c'est que ça donne des outils à tout le monde.
Mm-hmm. Et même notre propre mémoire à l'allié sur l'encadrement en 2013 démontrait que 66% des gens ayant vécu, des étudiants au cycle supérieur ayant vécu des situations inconfortables avec leur direction de recherche n'avaient pas d'entente d'encadrement parce qu'il y a des facultés qui en ont. Obligatoirement, il y a des facultés qui n'en ont pas. Donc, ceux qui n'en avaient pas étaient vraiment, avaient plus de chances d'être à risque.
Puis, on est présentement en campagne, justement, sur le plan d'encadrement. Donc, c'est de repartager les publications que vous voyez sur le plan d'encadrement. Il y a eu une lettre ouverte qui a été remise dans le soleil dernièrement. Donc, si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil, allez-y fort.
Oui, exactement. Suivez-nous sur nos réseaux. On partage des belles petites données par rapport à ça.
Puis, si vous débutez un programme de maîtrise ou de doctorat, bien, il n'est pas trop tard pour en discuter avec votre direction de recherche si vous n'en avez pas un.
Exactement. Autre grosse nouvelle cette année, il y a eu l'implantation de la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel. Grosse qui datait du projet de loi.
Bien, je peux en parler, dans le fond, si tu veux. tout ça est parti, en fait, de l'enquête SIMU, qui a été menée par la chaire de recherche québécoise interdisciplinaire et intersectionnelle sur les violences sexuelles dans le milieu de l'enseignement supérieur. Donc, en 2006, il est arrivé... Bon, ceux qui étaient là s'en rappelleront peut-être, quelques événements très malheureux dans les résidences de l'Université Laval. Donc, ces deux choses-là n'ont pas nécessairement de lien direct. Donc, à la suite de l'enquête SIMU, la ministre Hélène David a déposé un projet de loi, le projet de loi 151, qui était une loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que disait cette loi-là? En fait, c'était que chacune des universités québécoises devait développer une politique pour répondre, dans le fond, à tout ce qui touche les violences à caractère sexuel. Créer, dans le fond, une ressource où les personnes qui sont victimes de VAX peuvent directement se diriger pour être accompagnées, pour éviter, en fait, qu'ils aient à raconter leurs histoires à différents intervenants, puis pour mieux réagir, dans le fond, aux situations qui se présentent sur les campus, et également de développer des formations pour tous les étudiants et étudiantes et tout le personnel de l'université pour faire de la prévention sur les violences à caractère sexuel. Donc, comme vous avez probablement vu apparaître dans votre portail, la formation est disponible depuis la mi-octobre. Puis, jusqu'à jour, il y a un peu plus là, de 16 500 étudiants et étudiantes qui ont complété leur formation, ce qui est vraiment pas négligeable. C'est à peu près le quart, dans le fond, des étudiants présentement. Puis, il y a un peu plus là, de 4 000 employés de l'université aussi qui l'ont complété.
Puis, ce que je trouve intéressant avec cette formation-là, c'est que ça peut être aussi très utile, surtout avec les cas de GHB qu'il y a eu dans certaines facultés. Mm-hmm. Donc, ça donne des outils aux étudiants pour justement bien, comme, bien savoir quoi faire en situation de violence à caractère sexuel.
Oui, puis dans le fond, ça peut nous permettre aussi, on ne sera pas nécessairement victime nous-mêmes d'une violence à caractère sexuel, mais c'est très large, en fait, ce que ça couvre, cet acronyme-là. Puis ça peut nous permettre d'être plus au fait de ce qui se passe sur le campus, de mieux accompagner les personnes qu'on côtoie, de davantage déceler justement ce type de comportement-là pour les dénoncer, puis que ça arrête d'être accepté et acceptable.
Tout à fait. Et on rappelle aussi que les employés du à la fois du Café Foualier et du pub universitaire ont une formation pour le Angelo Shot. Si vous êtes victime de justement harcèlement sexuel à ces endroits-là, vous pouvez aller voir les serveurs et leur dire « j'aimerais ça un Angelo Shot ». Et eux sont formés pour faire le suivi avec vous, vous assurer que vous êtes dans une situation confortable et que vous n'êtes pas en danger. Donc, c'est bon à savoir aussi. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait déjà pour... Oui, Marie-Ève?
Mais il ne faut pas oublier, sur une note un peu plus positive, on vous invite le 12 décembre prochain, ce jeudi, donc, au party de Noël du Foualier, qui est fait pour les membres. Donc, amenez votre plus laid chandail de Noël.
Oui, tout à fait. Vous pouvez venir au Foualier ce jeudi. On a des prix de participation qui vont être remis pour le coton ouaté de Noël le plus laid.
Le chandail
le plus laid, pardon. Donc, venez en grand nombre, ça va être bien le fun. Il y a des drinks pas chers, de la bûche de Noël et... J'ai failli tomber en bas de ma chaise. J'étais même excité. Et un petit buffet. Oui, Lydia?
Hey, la communauté universitaire au complet va me juger, mais depuis le début de l'émission, que ça me titille de le dire. Vu qu'on a fait une revue de l'année, il y a une autre revue qui s'appelle La semaine. Je vous souhaite bonne semaine.
Oh. Je vais m'en rappeler de ça.
Tu m'inviteras plus. Hein?
C'est terminé. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute de Questions de savoir. Merci à Lydia, Nicolas et Marie-Ève d'avoir été présents cette semaine. On est de retour pour notre dernière émission de l'année, la semaine prochaine, mardi à 11h30. Donc, merci beaucoup à Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sport Opus vient d'ouvrir ses portes à Sainte-Foy. Que ce soit pour la location ou l'achat d'équipements de sport neuf ou usagé, Sport Opus est le meilleur endroit pour économiser. Profitez de rabais en magasin en nous rapportant vos articles de sport usagés en échange de crédits en magasin. Avis aux étudiants, nous avons un cadeau gratuit pour vous. Sport Opus Sainte-Foy, 2323 Galbani, coin Néré Tremblay, à quelques minutes de la pyramide.
Faites toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. De l'épée de Damoclès plane au-dessus de ma tête.
Écoute local avec Chiz 94.3.
Passe d'avant, c'est bien fait. Le tir est le bon.
C'est vendredi 13 décembre, 19h30. Vos remparts sont en visite au centre Gervais Auto pour y affronter les cataractes de Shawinigan. Ne manquez pas l'avant-match des 19h en compagnie de Rick Loutier. Rempart contre Cataract, ce vendredi 19h30, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Pour tout savoir sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, Chiz t'offre le meilleur de l'information.